Sur les 200 émissions qu'on a faites de CPU, laquelle vous a semblé la meilleure et celle qui a été loupée et pourquoi ?
Alors moi je ne suis là que depuis...
Ouais mais t'as peut-être écouté...
Je sais depuis quand mais... attends. Non vraiment question, je sais plus quand. Attends, LinkedIn parce que je l'ai mis, hein, autant s'auto...
Celle-ci je la bipe.
Oui, tu la bipes pas. Depuis janvier 2022. Mm-hmm. Alors la pire...
Bah, je te laisse chercher, moi je vais dire pour la mienne, à moins qu'il ne fassait déjà rédigé, donc il va chercher. Alors pour moi la pire émission de CPU, la plus mal préparée et mal produite, c'était l'émission numéro 29, EX0029, en direct du THSF 2016. On a eu des problèmes de son, de streaming, c'était un contenu très rasoir, alors que le THSF quand même c'était un festival de hackers absolument formidable. Samedi à 16h, Jeremy Zimmerman sera présent à 17h. Voilà, forcément, c'est tout le monde attend ça. Voilà, la rockstar arrive. Son coiffeur est toujours en prison. Et on a fait, pardon, j'ai fait l'erreur de lire le programme durant le direct et de l'avoir fait lire d'ailleurs à toi aussi, Infested. On aurait pu le faire depuis les studios de Radio FMR ou la préenregistrer comme d'habitude. Car avant midi, le THSF était quasiment vide. Et là, au moment où on était, donc le jeudi, à quasiment midi, au moment de l'heure de l'ouverture, tout le monde s'excitait comme des malades pour monter les décors et tout le reste. C'était pas forcément le mieux, mais rien de tel que l'ambiance de ce tiers-lieu disparu, qui était Mixar Meris. Rien de tel que l'atmosphère très chaleureuse du Double Dragon, le tiers-lieu du Theta Lab. Rien de tel aussi que la tour de PC avec son écran pas top et sa connectivité très aléatoire pour faire le direct avec la table de mixage à côté et des menaces de l'arsène, c'était quelque chose. Et puis aussi rien de tel que l'adrénaline du direct, mais en fait on l'a banni dans cette émission parce que c'est vraiment 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 insupportable pour nos invités. On s'en est rendu compte beaucoup trop tard des fois, donc fallait éviter. Et la meilleure émission de CPU, ben pour moi, c'est celle qu'on n'a pas faite. Il y a plus de 200 sujets qu'on aimerait produire, mais on manque sérieusement de bras. Pourtant, certaines sont ultra documentées. On a même commencé à écrire, mais chercher des invités, quand est-ce qu'on peut enregistrer et tout, des fois, c'est ultra compliqué. Bah non, en fait, ce n'est pas une réponse. Allez, pour moi, la meilleure, c'est l'émission EX0121, The Mother of All Demo, l'autre révolution de 1968. On l'a faite avec un an de retard, on l'a diffusée en novembre 2019, parce qu'on a eu 8 refus de personnes qui nous a dit qu'on était mieux qualifié qu'elles à cause de nos questions. Parce qu'on transmet les questions à l'avance pour différentes raisons. Et au final, on a eu une super interview sur un tournant définitif dans l'informatique où on a à la fois la souris, les hyperliens, le travail collaboratif, la visio. C'est-à-dire que l'informatique est devenue moins intimidant et invite les humains à collaborer. Et en fait, il y avait plein de choses super passionnantes à dire sur ce moment-là. Et je m'étais vraiment littéralement éclaté. Lors de sa présentation, il va démontrer pour la première fois la keynote technologique, la souris, le pointeur, le logiciel de présentation, l'édition de blocs, le formatage documentaire, le undo redo, les listes de tâches, les listes hiérarchisées dépliables, l'hypertexte, la visioconférence. Les graphiques avec hyperlien, l'édition WYSIWYG, l'aide contextuelle, l'édition multidocument. De macro, le partage d'écran, le jeu d'arcade à plusieurs joueurs, le travail collaboratif. Gabriel,
alors je veux dire, la mauvaise, pour l'instant, il y en a pas, sur un an, il y en a, j'en ai pas encore vécu, donc ça va. En revanche, la meilleure, ça va être cliché. Vas-y, tu sais déjà ce que c'est ?
Non.
Non, tu sais pas ? Si je te dis Lambin, Tu me réponds?
Ah, l'émission avec Cyril Lambin.
Oui, voilà. Fait, bah, c'était parce que comme ça parlait de Lone Life et qu'à ce moment-là, sur, je m'intéressais. Enfin, j'étais à fond sur tout ce qui était archives télé, donc moi, ça m'intéressait. En plus, ça parlait un peu technique aussi, vu que ça parlait aussi un peu de Noco.
Cyril Lambin, Ferracine Arsa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il avait un nom de plume qui s'appelait Rick Esté, où il écrivait dans Esté Mag. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu en fait, et je le savais pas. Et c'était un démo maker sur Esté. Et depuis, il a eu un prix pour une démo sur Apple II.
Et No Life s'est lancé en fait à la base c'était vraiment ouais le fait que ce soit possible sans tout ça. C'est déjà à la base c'est Free qui a lancé Freebox TV. Et quand Free a lancé Freebox TV, c'était une nouvelle offre qui avait jamais existé puisque c'était que du hardien à l'époque, la télé et le câble. Et Free, ils ont dit dans leur communiqué de presse, toutes les chaînes qui veulent se lancer sont les bienvenues, contactez-nous. Alors bon, Free étant très très difficile à contacter, même pour les professionnels, on n'a pas réussi à le faire.
Voilà, voilà.
Et c'est vrai qu'elle était marrante cette émission.
Oui. Mais c'est là où j'apprends aussi qu'en fait, même avec tant d'archives et tout, en fait, si ma mémoire est bonne, il disait que pour l'entièreté des archives de No Life sur Noco, ça tenait à peu près sur, je crois, 2 téraoctets de données pour tous les archives. C'est un bon compressage, enfin, bon encodage. Puis surtout aussi, alors ça c'était pas tout à fait dans CPU, mais c'était plutôt dans ce qu'on appelait à l'époque les debug mode, qui étaient diffusés sur No Life aussi. C'est, je repassais un petit peu et c'est quand ça parlait technique, c'est-à-dire
ouais, c'était une émission niveau, à la fois making of, ouais, et à la fois ils expliquaient justement toute la technologie.
Voilà, ça parlait aussi du passage à No Life Online, à Noco, tout ce qui était technique. Donc ça m'intéressait aussi. Ce qui m'intéressait aussi, c'était aussi au niveau des archives, c'est-à-dire à l'époque, donc ils archivaient sur cassette HDV ou DVHDV, si je dis pas de conneries.
HDV.
Et aussi des moyens modernes donc de stocker donc les émissions, les montages et autres choses sur disque dur de bureau, mais sur un dock externe. Et puis c'est là aussi que j'ai appris ce qu'étaient des LTO. Non. Si c'est ça. Si c'est des LTO, c'est-à-dire des petites des moyens de stockage mais sur bande.
Oui. Donc c'est ça. De 2 Tera, 2 à 4 Tera.
Voilà.
Et tu sais que c'est celles qui sont utilisées par l'INA pour l'archivage permanent.
Voilà.
Ils en utilisent 2 Tera, non, je crois pas, je crois que c'est plus. Hein. C'est une vingtaine de Tera.
On est plutôt sur de l'EXA même pour certaines.
Ouais, mais en gros, ils en utilisent 7 par jour pour archiver toutes les chaînes de télé françaises. Ouais.
Donc du coup j'ai un peu tout ça et puis je me retrouve en BTS électronique communication.
Tu fais du réseau dans notre émission et tu vas réseauter dans ton cours et dans ta vie professionnelle. Ça c'est va être super, tu vas voir.
Et voilà, j'improvise un question pour un champion. Qu'est-ce qu'une adresse privée d'une adresse publique?
À mon avis, un, tu peux la préparer et puis deux, tu sais que notre génération compte sur toi pour déployer IPv6.
Oui.
Oui, alors déjà, j'ai le cerveau qui crame avec l'IPv6.
Bonjour à toi.
Infested.
Alors, moi, c'est pas vraiment... Alors, j'ai pas eu vraiment de pire émission, mais disons qu'il y a une émission où j'ai dû me réprimer, me contrôler, parce que j'avais envie d'intervenir, mais en même temps, c'était difficile, parce que c'était une émission où il y avait Eugène.
D'habitude, je dis, c'est l'invité la star, donc on se calme un peu. Et là, avec Eugène... Alors, Eugène Lowe, faut expliquer, c'est un personnage qui était un animateur radio. On a fait l'avant-saison de CPU, c'est-à-dire on l'a testé dans la quotidienne qu'il gérait. Et disons que le sketch, c'est qu'il avait plus de 53 personnalités. Et accessoirement, je lui fais une bise, hein, Eugène, on l'a revu lors du Noël des artistes en décembre dernier, où il l'imprimait au laser sur des crêpes et d'autres choses rigolotes. Et c'est vrai qu'il est très remuant et qu'il n'hésitait pas à faire des blagues ultra limites. Il y en a qui ont vraiment, vraiment...
Justement, c'est l'émission 96 où Maywan, Maïtena Lenoir, présentait les éléments sur l'interface... Sur les interfaces, qui était une superbe émission. Le problème qu'il y a, c'est que là, on avait enregistré la chronique d'Eugène vers le début. Et en fait, la chronique était tellement énorme parce qu'on nous entendait rire parce qu'on était on enregistrait en public à ce moment-là
et dans les conditions du direct
et dans les conditions du direct,
c'était pénible.
La chronique était tellement terrible, parce que c'était enterré, son titre, c'était enterré des logiciels libres abandonnés. Je me souviens qu'il parlait de pas mal de choses, et notamment d'un problème de d'eau dans l'Aude, de crue dans l'Aude.
Oui, d'inondation meurtrière qui venait d'avoir lieu.
Dans l'Aude. Donc il était vraiment dans le ton et dans le sujet. C'était juste une chronique qui était tellement énorme qu'en fait, j'ai complètement zappé d'écouter My One. J'ai été obligé d'entendre la rediffusion pour pouvoir le faire. Mais je te jure,
c'était d'une violence incroyable.
C'était assez énorme.
Eh bien, figure-toi, mon bon Daskris, que j'ai rêvé que j'étais dans l'Aude pour creuser une tombe pour y enterrer tout un tas de logiciels libres abandonnés par leur communauté de développeurs et d'utilisateurs. Et pourquoi dans l'Aude? Eh ben, tout simplement parce qu'en ce moment, la terre est beaucoup plus tendre dans cette partie de la France, surtout du côté de Trèbes, donc c'est beaucoup plus facile de creuser. Bon.
Par contre, là où j'ai été le plus agréablement surpris, c'est quand on était allé voir les pompiers.
Ah ouais. Et là, on a vraiment été accueillis, mais là, vraiment incroyable.
Au milieu du centre du CODIS, vraiment au milieu, on était.
Alors on explique, hein, voilà. C'est le plateau technique du 112. Enfin, quand vous appelez 18 ou 112, en Haute-Garonne, ça atterrit à cet endroit. Voilà.
Et
là, on était littéralement au milieu.
C'était impressionnant parce qu'il y avait tout ce plateau téléphonique, et également le plateau d'urgence, celui qu'on voit sur les photos. Parce qu'ils nous l'avaient bien expliqué.
C'est là où on était bien content d'être passé en enregistreur voilà. Avec les micros et tout, parce que du coup, c'était plus simple.
Et surtout, ça a évité de gêner les interventions comme ça. C'était vraiment là. Merci le S10 de Haute-Garonne de nous avoir montré ça.
Pour une activité courante, on a 9 opérateurs de traitement d'appels d'urgence, donc ils sont là pour répondre aux appels d'urgence sur la partie journée, 7 la nuit, parce que l'activité est un peu inférieure à la nuit, mais voilà, on est sur une activité courante, 9 pompiers professionnels la journée, 9 pompiers la journée, 7 pompiers la nuit, un effectif total de on est à 80 sapeurs-pompiers pour pouvoir armer ce plateau 24/24. Et bien évidemment, de nombreux collègues qui sont aussi d'astreinte et qui peuvent regagner ce centre d'appel si on a une grosse intervention ou si on a de multiples interventions liées notamment à des événements météo.
Je mets en deuxième l'interview suivante où on était dans la préfecture où là on parlait par contre dans l'inverse des appels d'urgence. Mmh. C'est vraiment deux émissions, moi, assez importantes.
Elles étaient importantes en plus à nous pour un double titre parce que c'était pour les 20 ans de l'accident d'AZF, on voulait parler des systèmes de secours. Et en plus, ce qu'on ne savait pas, donc on se dit, c'est que c'était l'interview qui était le relais en fait du commandant
on avait un changement de commandement, ouais.
Et ça c'était super.
C'est vraiment super.
Enfin, toute la série d'émissions, parce qu'il y a eu Gaël, Radzia, incroyable.
Que je vois de plus en plus sur France Info, tiens d'ailleurs.
Sur France Info, BFM, Télématin.
Ouais, il y a un peu partout.
Ouais. Il y a Enflammé qui la spot. c'est devenu un sketch.
Télérama aussi. Non,
pas en papier. Lui, on a du mal à l'imprimer.